Le journal Sarah Guibaudot, bonjour Sarah.
Bonjour, vous avez demandé les urgences. Au bout du fil, les régulateurs du SAMU seront formés à la rentrée. Reportage dans ce journal. Une rentrée à haut risque pour le gouvernement. Avant les retraites, la PMA, quelle stratégie pour faire passer le texte sans encombre? G7 à Biarritz, contre-sommet à Hendaye. Les militants ont commencé à planter les tentes pour un autre monde et sans violence, promis dans le reportage que vous entendrez. Alors que le ralentissement de l'économie mondiale ne va pas faciliter les discussions des chefs d'État. Aux États-Unis, alors que des jeunes femmes abusées par Jeffrey Epstein ont saisi la justice, on apprend que le financier a signé son testament avant de se suicider. Sa fortune placée dans un trust est estimée à près de 600 millions de dollars. Il existe un moyen de localiser les appels d'urgence. Le système peut sauver des vies, comme dans le cas du randonneur mort en Italie, mais il ne sera mis en place en France qu'à la fin de l'année. L'allocation de rentrée scolaire est versée aujourd'hui. C'est le top départ des courses de fourniture, nous dira un responsable de supermarché. Pour la rentrée du cinéma français, direction Angoulême, le bon plan de la fin de l'été. À 8h20, votre invité, Pierre Veil.
L'écrivain et journaliste Olivier Guèze, il a dirigé la rédaction d'un livre qui vient de paraître, Le siècle des dictateurs, aux éditions Perrin-Le Point. 22 portraits de dictateurs et analyses de leur sinistre fonctionnement. Vos questions pour Olivier Guèze, dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Malgré leurs responsabilités, les régulateurs du SAMU n'ont aujourd'hui aucun diplôme spécifique. C'était l'une des leçons du drame de Naomi Musanga à Noël 2017, qui avait terni l'image de ces personnes qui répondent aux appels d'urgence. La jeune femme était morte à Strasbourg après qu'une opératrice se fût moquée de ses douleurs au ventre. Les SAMU d'Île-de-France ouvrent à la rentrée le premier centre de formation pour les assistants de régulation médicale. Daniel Messager.
Vous avez quoi comme problème de santé ? D'accord, vous êtes dans quel arrondissement ? À quelle adresse ?
Ce sont les premières informations à recueillir, savoir parfaitement localiser la personne pour envoyer les secours au plus vite. C'est un des volets de cette formation pour les futurs candidats à la régulation. Ceux qui sont déjà en place devront valider des compétences. C'est le cas de Gaël, en poste au SAMU de Paris depuis 6 mois. Il a appris comment questionner pour fournir les indications les plus précises aux médecins.
Hier, vous aviez moins de vertige. Et ça augmente aujourd'hui ou pas ? Vous
avez mal ? Dans sa formation, il sera aussi enseigné comment aider par téléphone à pratiquer un geste d'urgence.
On va mettre en place des gestes de secours nous directement au téléphone, faire un massage cardiaque à la personne et dans le même temps, les collègues vont pouvoir envoyer une équipe de réanimation du SAMU et un véhicule de pompiers.
Bien régulé, c'est laisser toutes les chances pour une prise en charge optimale à la personne qui appelle. Docteur Caroline Tellion du SAMU de Paris.
Il faut savoir faire la différence entre l'urgence ressentie et l'urgence réelle pour pouvoir transmettre au médecin qui lui prendra la décision de l'envoi d'un moyen. Répondre avec une certaine empathie, mais sans perdre ses moyens. C'est pas toujours facile quand on n'a pas reçu la formation.
Et l'accès à cette formation se fera après une épreuve de sélection et un entretien, dossier à déposer avant le 10 septembre.
En ce moment, une partie des régulateurs du SAMU se sont joints à la grève symbolique des urgences pour demander plus de postes et de lits pour les patients. Un pompier a été agressé cette nuit alors qu'il intervenait sur un incendie. Cela s'est passé à Effre, dans les Deux-Sèvres. Un homme de 33 ans s'en est pris au pompier alors qu'une maison était en train de s'embraser. La réforme des retraites, le budget, l'élargissement de la PMA, le gouvernement s'attaque à de gros chantiers pour la rentrée. L'objectif est de faire passer vite le projet de loi sur la bioéthique qui prévoit l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Parmi les opposants, le mouvement La Manif pour tous, créé contre la loi sur le mariage pour tous, veut remobiliser ses troupes. Il faut donc commencer pour le gouvernement, par souder la majorité. Maxence Lambrecq.
Calinothérapie pour les élus de la majorité, fermeté à l'égard des manifestants. Voici le plan de bataille. En ce moment, les marcheurs opposés à la PMA sont chouchoutés, écoutés, reçus par les ministres. Le parti leur propose même d'intervenir dans leur circonscription, animer une réunion publique pour calmer les éventuels opposants, leur distribuer des fiches, des tracts, de la pédagogie à tous les étages. Mais en fait, combien sont-ils ? Réponse de Guillaume Chiche, l'un des responsables du texte.
Moi je vois une dizaine, voire peut-être une petite quinzaine de parlementaires de la majorité qui s'interrogent, pour lesquels il va falloir répondre aux interrogations qui soulignent. Est-ce que l'accès peut être donné avec une sécurisation juridique pour les hommes transgenres ? Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, comme l'a fait le Conseil d'État par ailleurs, de la PMA dite post-mortem, avec tiers donneur qui décide en cours de parcours ? Est-ce que la femme peut continuer ?
Ces questions semblent ouvertes pour l'instant, mais ce n'est pas la rue qui va y répondre, prévient un cadre de la majorité. Face à la manif pour tous, on ne laissera rien passer, pas la moindre parole homophobe. Ils défileront le 6 octobre, mais ce sera déjà trop tard, espère un député qui joue la carte de la sérénité.
L'autre grand rendez-vous de la rentrée pour le gouvernement, c'est le G7 cette fin de semaine. 12 000 policiers et gendarmes sont envoyés à Biarritz pour assurer la sécurité des convois des chefs d'État et éviter toute intrusion dans la zone de l'hôtel du Palais. Eux ne font pas confiance aux dirigeants des 7 plus grandes économies démocratiques pour réduire les inégalités, c'est le thème officiel de ce G7. Les militants anticapitalistes, altermondialistes ou écologistes commencent à monter leur camp entre Hendaye et la frontière espagnole. Omar Wamane est allé à leur rencontre.
La quincaillerie en face de nous.
Thibaut, 32 ans, nous guide dans ce camp de base situé près de la ville d'Hendaye. Il fait partie des premiers arrivants.
Ça fait 2 jours que je suis là. Ouais. On est arrivé, on a posé les tentes, les camions derrière. Voilà, il y a des coups de main à donner un peu partout. Donc, voilà.
Et ces coups de main, Thibaut les donne avec son ami de lutte, Benji, 30 ans. Un zadiste de Notre-Dame-des-Landes en colère.
Je pense que ce qui nous rassemble ici, c'est qu'on ne croit plus du tout en ces personnes-là, ni en leur façon de faire, ni en la marre.
Un ras-le-bol partagé par tous les militants, venus parfois en famille, comme Ingrid et Benoît, parents de 3 enfants.
En groupe, en équipe, pour avancer.
Je pense que ça va leur faire du bien. Ici, on croise que des personnes bienveillantes.
On pense que pour nous, c'est la meilleure manière pour qu'ils avancent.
Ici, personne ne parle de casseurs ou d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ce contre-sommet se veut résolument pacifique. Christine, une des porte-paroles de la plateforme Non au G7.
Nous, les casseurs, on n'en veut pas. C'est pas notre but, en tout cas. Nous, on est là pour créer un autre monde et que tout se passe bien.
Et pour parvenir à un contre-sommet sans heurts, les organisateurs ont décidé de mettre en place des formations à l'action non violente.
Parmi les discussions du G7, comment faire payer des impôts aux multinationales du numérique, alors qu'à Washington, les géants du net s'insurgent contre la taxe française. Les représentants d'Amazon, de Facebook ou de Google ont été auditionnés hier par le gouvernement américain. Depuis le 11 juillet, la loi française prévoit une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires, même si les bénéfices sont localisés à l'étranger. L'ombre qui plane sur ce G7, c'est aussi le ralentissement économique mondial, attisé par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais les États-Unis, eux, sont plutôt épargnés et donc pas très enclins au compromis, Frédéric Seyss.
Les États-Unis arrivent en position de force. Une croissance meilleure qu'attendue, aux environs de 3% cette année, quand presque tous les autres membres du G7 se battent pour éviter la récession. Voilà pourquoi il est peu probable qu'un compromis soit trouvé dans la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin, d'autant que la Chine ne fait pas partie du G7. Pour autant, ces 3 jours de réunion entre dirigeants peuvent permettre de progresser et pourquoi pas d'adoucir les positions américaines, par exemple sur la taxation des GAFA, des géants du numérique, selon Dominique Moisy, géopolitologue et conseiller spécial à l'Institut Montaigne.
On peut imaginer que des pays comme la France disent à Donald Trump « on peut peut-être vous aider par rapport à la Chine si vous faites preuve d'un peu plus de compréhension par rapport à ce que nous exigeons en matière de taxation des GAFA ».
L'objectif est d'abord de restaurer la confiance des acteurs économiques à défaut de trouver un accord avec l'imprévisible président américain. Lors du dernier G7, Donald Trump s'était d'ailleurs désolidarisé du texte final. Cette fois-ci, aucun risque, la présidence française a décidé de supprimer le traditionnel communiqué commun à l'issue du sommet.
Sur l'île espagnole de Grande Canarie, les pompiers ont encore lutté toute la nuit contre le gigantesque incendie qui ravage la forêt depuis samedi, toujours hors de contrôle. Le feu a parcouru 10 000 hectares et entraîné l'évacuation de 9 000 personnes. 2 jours avant de se pendre dans sa prison de New York, le financier américain Jeffrey Epstein avait signé son testament pour mettre sa fortune à l'abri dans un trust, révélation du New York Post. Le trust, basé dans les îles Vierges américaines, permet de masquer l'identité des bénéficiaires. Selon ces documents, la fortune d'Epstein, accusée d'avoir abusé de nombreuses jeunes filles, s'élève à près de 580 millions de dollars. À Washington, Gregory Phillips.
Son appartement de l'Upper East Side à Manhattan, estimé à 56 millions de dollars. Les 2 îles qu'il possédait dans les îles Vierges, 85 millions. Sa propriété parisienne avenue Foch, 8,6 millions. Une fortune à laquelle il faut ajouter un peu plus de 307 millions de dollars en actions et autres placements purement financier. Le 8 août dernier, deux jours avant sa mort, Jeffrey Epstein convoque deux avocats dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York et il paraphe ce document de 21 pages. Dans son testament, Epstein confie tous ses biens à un trust, aucun bénéficiaire n'est nommé. Il y a uniquement les noms des trois personnes chargées d'exécuter ce testament. À ce jour, le seul héritier possible est le frère du financier, Mark Epstein. Mais ce qu'il va advenir de ce demi-milliard de dollars intéresse évidemment la justice américaine, ainsi que les avocats des victimes présumées de l'homme d'affaires, qui déjà ont réclamé le gel de tous ses actifs, en vue un jour d'éventuelles réparations, car malgré le suicide de Jeffrey Epstein, l'enquête continue. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Le réseau social Twitter a suspendu près d'un millier de comptes utilisés par Pékin pour discréditer les manifestants de Hong Kong. Twitter est pourtant interdit en Chine continentale où les autorités exercent déjà un fort contrôle des médias. Et ce matin, c'est Londres qui se dit préoccupée par la possible arrestation en Chine d'un employé de son consulat de Hong Kong. La crise politique en Italie, c'est aujourd'hui que le Premier ministre Giuseppe Conte pourrait poser sa démission, ce qui scellerait la fin de 14 mois d'une coalition inédite entre le Mouvement 5 étoiles populiste et la Ligue de Matteo Salvini d'extrême droite. Dans l'enquête sur la mort du randonneur Simon Gauthier, on attend maintenant les résultats de l'autopsie pour savoir si une intervention plus rapide des secours aurait permis de le sauver. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu indiquer précisément où il se trouvait dans ce secteur isolé de Policastro au sud de l'Italie et que l'appel n'a pas permis de le localiser. Ce sera bientôt possible grâce au système de géolocalisation AML. D'ailleurs, il est déjà adopté par 10 pays européens, mais pas encore la France ni l'Italie. Les explications de Benoît Vivier de l'association du numéro d'urgence européen.
Quand vous contactez les urgences, votre téléphone va reconnaître qu'il y a un appel d'urgence qui est en train d'être passé. À partir de là, dès qu'il reconnaît ça, il active le protocole AML et il va commencer à rechercher votre localisation. Ça peut prendre une dizaine de secondes pour établir exactement où vous êtes. Et une fois que cette localisation est établie, elle est envoyée par SMS vers les services d'urgence. L'utilisateur n'a rien à faire, pas d'application à télécharger. C'est une technologie qui existe déjà sur tous les téléphones Android et Apple, donc c'est-à-dire une grande partie du marché, mais ça doit être activé pays par pays. Avec le dispositif actuel, on est localisé en moyenne à 2 km près. Avec l'AML, c'est 10 mètres, 20 mètres. C'est pas forcément très cher en termes de mise à jour des infrastructures. En Estonie, ça a coûté environ 30 000 euros. La même étude du cabinet d'analyse a chiffré 7 500 vies sauvées sur une période de 10 ans au niveau européen.
Propos recueillis par Tukniri Lanto, la France doit mettre en place ce dispositif d'ici la fin de l'année. Des lapins entassés dans des cages et bourrés de médicaments, c'est la nouvelle vidéo choc publiée par l'association L214 dans un élevage intensif des Deux-Sèvres. Pour en savoir plus, notre site internet franceinter.fr. C'est un jour que des milliers de familles attendent avant d'acheter cahiers et cartables. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui, près de 400 euros sous condition de ressources. Et à l'hypermarché Auchan de Haute-Pierre en Alsace, le chef Bruno Nguyen attend un afflux de clients.
C'est toujours le grand moment puisque cette journée fait qu'on bascule dans une autre dimension concernant le volume d'activité, puisque c'est à ce moment-là effectivement que, alors je ne sais pas si c'est la valeur de la prime ou conscience qu'il ne reste plus que quelques jours avant la rentrée qui fait qu'il y a un afflux de clients beaucoup plus important que juillet et jusqu'à la prime. Pour un titre d'exemple, une journée à partir du moment où la prime est tombée, on est sur des journées entre 20 et 25 000 articles jour. Alors qu'avant cette journée de prime, on est plutôt sur 12-13 000 articles. On double quasiment. Et ça sur 2-3 jours. Et après, on stagne entre 18 et 20 000 articles.
Propos recueillis par Arthur Blanc de France Bleu Alsace. Nous vous parlions hier de ces trois touristes sud-américaines placées en centre de rétention sans raison valable alors qu'elles étaient en transit à Roissy. Ce n'est pas fini. Libérées sur décision de justice, elles n'ont pas pu récupérer leur passeport hier. La préfecture de Seine-Saint-Denis affirme que ce devrait être possible ce matin. Allez, vous voulez voir des films en avant-première, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, le tout pour 25 euros. Direction Angoulême pour le festival du film francophone créé notamment par Dominique Besnéard. De plus en plus de spectateurs profitent du bon plan charentais. 40 000 personnes l'année dernière. C'est désormais la rentrée du cinéma français, Corinne Pellissier.
Alors, c'est succès, ça, non ?
Depuis le raz-de-marée intouchable en 2011, les professionnels y croient dur comme fer. Une avant-première à Angoulême agirait comme un puissant accélérateur de succès. Un festival porte-bonheur pour les plus superstitieux, la garantie pour les autres d'une fréquentation dopée par les rencontres avec les stars. Danny Boone et Guillaume Gallienne, cette année, dont l'adaptation du Dindon de Georges Feydeau par Jalil Lespère.
Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez marqué.
Peut-être aussi Gérard Depardieu, en maître d'échecs, dans le nouveau film de Pierre-François Martin Laval, Faïm. Un film adapté d'une histoire vraie sur le parcours d'un jeune sans-papiers.
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Je suis bourru, quoi.
Fais chier ! Oh ! Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Faïm.
Au total, une trentaine de films inédits, accessibles à tous, du chasseur d'autographes au cinéphile. Et un seul ticket d'entrée, 25 euros pour 10 séances. Compétition avant-première, séance spéciale.
Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton olympien.
Parmi les films les plus attendus, ce documentaire consacré à Charles Aznavour, Le regard de Charles, réalisé à partir d'archives du chanteur, avec la voix de Romain Duris, sorti au cinéma le 2 octobre.
En fait, je vous regarde depuis le début.
En ouverture du Festival du film d'Angoulême ce soir, Mon chien stupide, de et avec Yvan Attal et avec Charlotte Gainsbourg. Une adaptation du roman de John Fante. Mais nous, Pierre, on devra attendre le 30 octobre pour sa sortie en salle.
C'était le journal de Sarah Guibaudot, la météo, Stéphanie Fromentin. Le ciel est encore perturbé.
Oui, ce matin, le temps est même encore agité sur un axe allant des Pyrénées à la Franche-Comté, en passant notamment par le Midi Toulousain, le sud du Massif Central, le Forez et le nord des Rhône-Alpes. Le ciel y est très nuageux avec des pluies localement orageuses, temporairement soutenues, une activité peu marquée sur les Pyrénées et une vigilance orange pour des risques d'inondation maintenus sur le département de l'Ariège. Au nord de cet axe ainsi que sur la région PACA, le ciel est parsemé de cumulus et le soleil bien présent pour la journée. Cet après-midi, l'activité pluvio-orageuse a tendance à se décaler vers l'est. Elle faiblit du côté des Pyrénées et du Massif central, laissant place à un ciel encore bien chargé débordant jusqu'au golfe du Lion, tandis qu'elle se renforce sur l'Ain, la Haute-Savoie et la Franche-Comté. Et puis le vent, Mistral et Tramontane se mettent en place avec des rafales qui pourraient atteindre les 70 km par heure.
Les températures sont stationnaires.
Elles sont même un peu fraîches dans le nord-ouest avec 8 à 10 degrés au réveil. Mais généralement, c'est plus doux avec 12 à 16 degrés ailleurs, 18 à 21 en Méditerranée. Cet après-midi, il règne comme un air d'automne côté Mercure avec des valeurs parfois inférieures de 5 degrés au normal de saison, sauf dans l'extrême sud-est où il fera encore 27 à 33 degrés. Sur le reste du pays, comptez 19 à 23 du nord aux frontières de l'est, 20 à 26 ailleurs. Il fera 17 degrés à Saint-Étienne, 19 au Havre comme à Annecy, 22 à Paris et Strasbourg, 24 à Tours mais 29 degrés ailleurs dans le Var.